Somebody on the watch it up or some water get down the butt to the mouth there, what I told some that go back to my party to the butt and the water get by to the bad the bullet of the butt and they were never told you about it, don't get down the butt and they tell the funny never to go to my life, don't tell the butt and told that and the back to down of the wind and the butt to the butt and the.
Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Ça suffit, ces gens sont des parasites.
Et cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise.
Vous avez quand même supprimé combien 8000 emplois. Mm-hmm.
Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu.
Ah oh bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui.
Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars elles chantent, ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini.
Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici?
Rien. Je regarde, c'est ça la preuve.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par
mois? Mange
pas.
Pardon?
On mange pas. Eh bien, on va se faire vos porte-paroles.
Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez.
Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois?
Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres.
Bon, bah, allez leur défoncer, leur rager. On va pas arrêter là. Allez faire les danseuses. Merde.
Vous êtes de la part de Bernard Arnault?
Oui, je travaille chez LVMH.
Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris.
Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage.
Ben, je n'ai plus rien à perdre. Bon.
Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Allez Bernard,
et puis raquettez bien les PDG alors. PDG.
François Ruffin, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour tout te dire, quand j'ai entendu parler de ton film, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, je vais lui filer un petit coup de pouce à ce pauvre Ruffin, je vais l'inviter sur hors-série, ça lui fera un peu de pub. Et bon, en fait, je vois que t'as pas vraiment besoin de moi. Là, t'as eu un gros papier de Lordon dans le monde diplomatique, puis plus surprenant, une double page dans Le Monde pour, qui dit que ton film Merci Patron est un chef-d'œuvre du genre. Mmh. T'es un peu partout, sur Europe 1, sur RMC. Bon, bref, ça se passe bien pour toi. Il y a déjà 10 000 personnes qui ont vu le film, alors qu'il est bon, dans toutes les avant-premières, dans toutes les projections avant même qu'il soit sorti.
Plus important, il y en a eu 4 390 sur la seule journée d'hier.
Ah ouais, la journée de sortie.
Ouais.
Ah ouais, donc c'est donc ça se passe vraiment bien. Donc, pour éviter les doublons et tout ce que tu as pu dire déjà un peu partout, et notamment chez nos partenaires d'Arrêt sur Image, on va essayer de parler pas seulement du film, mais plus généralement de ton journal.
J'en ai marre de me répéter.
Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je craignais, parce que là, en plus je sais que ce matin tu étais à la radio, enfin on t'enchaîne. Les interviews, donc, bon, on va parler plus globalement de presse militante. Pour moi, la question stratégique en tant que journaliste de gauche, c'est comment faire du militant pas chiant, pas lourd, pas jargonnant, pas moralisateur. Comment éviter les mots creux? Comment, là, on a la loi Khomri qui nous tombe dessus, et comment ne pas redire le néolibéralisme, blablabla, enfin, résistance, lutte. Bon, et je trouve que c'est ta force, c'est ce que tu arrives à faire dans ton journal, dans ton film, dans tes reportages en général. Donc c'est, bon, je crois que c'est de ça que je voudrais qu'on parle, c'est que tu fais un journalisme de gauche, mais incarné, où c'est drôle ou émouvant. Bon voilà, excuse-moi, c'était hyper complaisant ce début, je suis désolée. Alors...
J'en ai fait pas grand-chose à ajouter.
Alors, bon, donc, d'abord, je voudrais juste que tu dises deux mots sur ton parcours. Tu lances Fakir à Amiens en 99, alors que tu es encore étudiant à la fac de lettres, et un an après, tu décides de faire une école de journalisme. Tu es pris dans la meilleure école rue du Louvre, le CFJ. Et là, tu découvres une usine à formater, ce que tu appelles des bons petits soldats du journalisme. C'est le livre que tu écris en sortant. Bon, c'est un témoignage incroyablement précieux, en fait, parce que de ce qu'on apprend vraiment. Donc, est-ce que, bon, ça remonte à longtemps maintenant, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on apprend au CFJ, ou dans toutes les écoles de journalisme, en fait, et qu'est-ce qu'on n'apprend pas?
Je pense que l'école est toujours un lieu intéressant, parce qu'ensuite, quand on est à l'intérieur d'une profession, on a déjà intégré une certaine manière de faire, et on n'a plus besoin de dire aux gens comment ils doivent fonctionner. Tandis que l'école, c'est le moment où les lois sont énoncées. Donc là, on a un certain nombre de lois qui sont énoncées. Les bons petits soldats du journalisme, c'est pas moi qui le dis, c'est un enseignant, par exemple, qui nous dit qu'on doit devenir des bons petits soldats, des bons petits soldats du journalisme. Il y a plein de choses. Il y a le fait d'avoir des réflexes, hein, un réflexe de sauter sur l'actualité, le réflexe de faire des sonores qui ne dépassent pas 15 secondes. Bon, il y a un certain nombre de lois comme ça qui semblent relever de la gravitation journalistique, quoi. Mais le mot réflexe, déjà, en lui-même est intéressant parce qu'un réflexe, c'est quelque chose qui s'arrête à la moelle épinière. Il faut que ça aille vite dans le journalisme, donc on s'arrête à la moelle épinière et il ne faut pas que ça monte jusque là-haut, quoi, en gros, quoi. Donc, voilà ce que... C'était, en fait, la grosse critique que j'émettrais, c'est le côté uniforme de la formation qui m'a été délivrée sur le modèle de France Info, LCI, Le Parisien. Alors que je pense que le journalisme est encore une profession qui supporte des formes d'hérésie et qui nécessite de l'imagination, d'autres manières de faire et tout ça. Et ce que je regrette, c'est que dans la formation qui m'a été délivrée, il y avait un espèce de modèle unique sans fenêtre qui ouvre sur des nouvelles manières de faire, du striptease, Mermet, Michael Moore, enfin toutes des choses qui moi m'ont influencé, mais m'avaient influencé déjà avant l'école. L'une des ambiguïtés de mon parcours, c'est que j'arrive déjà très formé au sein de l'école. Hein. Ouais. Puisque j'ai déjà lancé Fakir quand même, j'ai déjà des procès, ou bien ils vont juste arriver au moment où j'entre à l'école, j'ai lu Les Nouveaux Chiens de Garde, j'ai pondu un mémoire de maîtrise de linguistique sur le journalisme, je suis très nourri de critiques des médias et de pratiques journalistiques déjà. Donc voilà, c'est une ambiguïté de mon parcours qui fait qu'en effet, quand j'entre dans l'école,
T'appelles ça une ambiguïté ?
Bah parce que je pense que le fait d'arriver dans une école et déjà grosso modo savoir faire le métier, entre guillemets, mais enfin, ouais. J'avais déjà fait un stage à Libération où on m'avait dit, bon écoute, il n'y a pas de souci, hein, tu vois, tu t'écris bien, tu rends bien compte des choses et tout ça, mais bon, maintenant, c'est comme ça, la profession, paf, il faut le tampon. Il fallait le tampon, quoi. Donc, c'est quand même un truc où, du coup, bah, c'est vrai que moi, j'arrive et on m'énonce des trucs soit je sais déjà faire, soit j'ai pas envie de faire, quoi. Ouais. Donc,
Et comment ça se fait que tu avais déjà ce degré de politisation-là ? Comment ça s'est passé, cette construction politique, pour toi ?
Ouais, c'était une construction politique très individuelle, quand même. Je veux dire que j'ai jamais été membre d'un collectif, d'un parti, d'un syndicat, ouais, et tout ça, mais... personnellement, je pense que depuis longtemps, je suis porté par une colère et que ma colère, quand on n'est pas bien dans le monde, quand on n'a pas sa place dans le monde, ça amène davantage à comprendre, se heurter au monde, c'est chercher à le comprendre aussi. Mmh. Et donc, oui, j'ai beaucoup lu et beaucoup écrit avant même de lancer Fakir, des choses qui sont restées closes, quoi.
Tes parents, ils étaient politisés ?
Non, pas du tout.
D'accord. J'ai découvert dans le portrait du Monde, ta mère tenait un bar, c'est ça ?
Non, c'est mes grands-parents, ça.
Ah, d'accord.
Grands-parents.
Tes grands-parents tenaient un
bistrot, dans le Pas-de-Calais. Okay. Ouais.
Et ton père, cadre, chez Bonduel.
Voilà.
Donc, je ne sais pas si c'est la petite bourgeoisie, comment te classer.
Moi, j'aime pas trop parler de ma famille, en toute honnêteté. Mais bon, voilà, je pense que...
C'est plus pour faire le parcours politique, ce n'est pas pour faire de la psychologie.
Mais ceci dit...
Pourquoi je te dis ça, c'est parce que dans le livre, tu fais une remarque intéressante sur les autres étudiants de l'école. Et tu dis... Bon, à la limite, ils pouvaient être un peu déçus de ne pas faire plus d'enquêtes de terrain, mais finalement, ils accommodaient très bien du fait qu'il n'y ait pas du tout d'outils théoriques, critiques. Et tu as cette phrase, en gros, ce sont des bourgeois progressistes, là, c'est moi qui paraphrase, mais ce sont des bourgeois progressistes, donc disons tendance centre-gauche, et tu dis, qu'ils n'ont pas connu de grosses difficultés matérielles dans la vie, nulle injustice ne les a marqués, ils n'éprouvent aucune colère contre le monde, à quelques détails près, à quoi bon, dès lors, fourbir des outils théoriques pour dénoncer l'ordre scolaire, financier, judiciaire, établi, qui les a jusqu'ici si bien servi. C'est pour ça que je me demandais, alors toi, est-ce que c'est que tu viens d'un autre milieu que ça, ou est-ce que... Tu viens du même milieu, mais pour des raisons un peu de hasard, tu as fait des lectures qui t'ont...
Non, mais je pense que la culture, l'entrée de la culture chez mes parents et tout ça, c'est quelque chose de tellement récent que, j'ai pas envie d'en parler.
D'accord.
Mais voilà, il y a quelque chose.
Bon, ok. Alors, pour mieux te cerner politiquement, donc tu t'es politisé comme ça individuellement à travers des lectures, donc c'est surtout ça en fait, tu t'es des lectures, des films.
Ouais, ouais.
Comme ça. Et je sais plus où, je sais plus dans quelle intervention, tu décris comme réformiste en fait. Bon, un peu c'est un peu de la provoque, mais tu ne dis pas révolutionnaire ou anticapitaliste.
Bah, moi, je veux bien. Je trouve que la formule de Jaurès, c'est celle qui me convient le mieux, réformiste révolutionnaire. Mmh. C'est-à-dire que. Après, il y a Jean-Pierre Garnier qui est un vrai anarch, qui dit de moi, en gros, qu'il aime bien ce que je fais. Parce que si je suis peut-être un réformiste conséquent, mais ça vaut mieux que des révolutionnaires d'université, des révolutionnaires en peau de lapin, pour qui les mots sont les choses. Et je suis prêt. Pour des réformes qui sont donc pas des contre-réformes, mais pour des réformes, à peut-être mettre beaucoup plus les mains dans le cambouis que des révolutionnaires qui vont aller se nourrir de grandes proclamations, mais qui vont pas forcément passer à l'action. Je dis pas que je suis un grand activiste et puis tout ça, mais je peux mettre les mains dans le cambouis quand même. Par ailleurs, moi, je pense que pour avoir une vraie aspiration à la transformation de la société, il faut déjà avoir pris une certaine confiance en soi individuellement et confiance en soi collectivement, et ça passe que par des petites victoires. Chaque petit pas en avant, c'est en même temps une possibilité de relever le nez vers l'horizon. Mais quand on vous dit de regarder l'horizon radieux et que vous n'avez subi qu'une série de défaites, que vous n'avez pas le sentiment d'appartenir à un collectif qui a déjà remporté quelques victoires, je pense que dire aux gens aujourd'hui on va faire la révolution, moi je pense que c'est inaudible.
Ouais. C'est un choix de mots aussi, quoi, en fait, aussi. Ouais, de ne pas le présenter comme ça.
Ouais, mais non, c'est dire, ben voilà, moi je vous propose qu'on fasse un pas ensemble.
Ouais.
Je vous propose qu'on ait. Moi, tu vois, je serais pour une réforme aujourd'hui qui. À tout le monde, dans ceux qui vous regarderont, et tout ça va paraître complètement nul, mais je dirais. Aujourd'hui, un PDG qui licencie ses salariés, il devrait être contraint d'aller leur dire individuellement et d'aller passer un quart d'heure avec eux. Ensuite, il devrait être contraint, 2 années après, de revenir voir ce qu'ils sont devenus.
Ouais.
Ce n'est pas quelque chose qui transforme, qui bouleverse l'ordre du monde. Mais je pense que ça peut être un objectif humain sur lequel on peut rassembler. Moi, là où je pense que je peux apporter quelque chose, c'est sur une espèce d'intuition d'où en est le corps social et de comment on peut le mouvoir, tu vois. Et là, sur une proposition comme ça, mais ça peut être d'autres propositions, je pense qu'il y a la possibilité de faire se mouvoir et émouvoir une bonne partie du corps social, plus que sur des... Tu vois, si on dit la fin des licenciements boursiers, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on entend ça, il n'y a personne qui y croit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée, mais on voit que ce n'est pas un truc porteur, quoi.
Ouais. Et là, tu es clairement sur une ligne protectionniste. Ça a toujours été... Tu as toujours été convaincu de ça, ou tu as eu des évolutions...
J'avance. Je veux dire, quand je lance Fakir en 99, je pense que je suis un bon critique des médias. Et c'est d'abord comme ça que naît le journal.
Ouais.
Parce que l'objectif du journal est de détruire la communication municipale.
Ouais.
Donc voilà, je suis un bon critique des médias et je commence par faire du reportage social. C'est-à-dire pas seulement critiquer ce qui est dans le journal municipal, mais aussi montrer tout ce qui n'y est pas. Voilà, donc les deux démarches. Je connais pas grand chose j'ai eu du Bourdieu beaucoup, mais aux mécanismes sociaux et tout ça, aux questions économiques. Moi, un grand moment de formation économique, c'est le plan social, la délocalisation du lave-linge chez Whirlpool, qui part de Amiens vers la Slovaquie, à Poprade. Et là, j'assiste à une réunion de l'intersyndicale et je ne comprends pas les causes de ce départ. Ouais. Et donc, je m'adresse à un délégué CGC qui me remet un rapport, un énorme rapport. C'est un truc rédigé par le cabinet Secafi Alpha. Et puis, il me remet le rapport de la direction. Et je passe une semaine à compulser très concrètement le marché du lave-linge en Europe et en France, à comprendre qu'il y a le lave-linge top. C'est celui qui se fait par le dessus et qui est un peu un truc déclinant. Et le lave-linge frontal.
Ouais.
J'aime bien rentrer dans la concrétude des choses. Et c'est à partir de ce cas que je comprends ce qui se produit, pourquoi ça part, directement parce que les coûts de main-d'œuvre sont moins chers là-bas, mais aussi parce qu'on va pouvoir faire appel à des sous-traitants de là-bas, ce qui va aussi diminuer les coûts, tu vois. Et donc, j'entre dans cette concrétude-là, de voir le groupe Whirlpool fonctionner à l'échelle européenne. Et c'est de là que naît un truc où, quand je rends les rapports au délégué CGC,
Il me dit, mais alors, je lui dis, bah, qu'est-ce que vous comptez faire? Il me dit, on a une idée, on a envie d'aller coller des étiquettes fabriquées en Picardie, chez Darty, ou un truc comme ça. Mais je lui dis, attendez. Enfin, je le pense, je crois que je le dis pas parce que je suis jeune et on a affaire à des responsables d'organisations syndicales, je les respecte, mais je me dis, c'est pas possible d'avoir un problème qui est aussi important, c'est comme une espèce d'hémorragie parce qu'il y a déjà plein d'entreprises qui sont parties, et lui, c'est un sparadrap, il va aller coller des autocollants, c'est pas possible. Alors là, déjà, je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez des barrières douanières, quoi? Et donc, parce que c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit de moi, mais c'est le premier truc qui vient à l'esprit de tous les ouvriers de la boîte. Ouais, ouais. C'est le premier truc qui vient à l'esprit dans le quartier de l'Espérance à Abbeville, qui est quand on. Faut toujours lire les noms des quartiers à l'envers. Tu vois, le pigeonnier, il n'y a aucun pigeon, les peupliers, tu peux chercher les arbres. Et le quartier de l'Espérance, tu imagines la gueule du quartier, quoi. Les gens, naturellement, te disent, mais si on laisse rentrer tout ça de Chine, comment ça peut marcher? Bon, ben voilà, c'est une espèce de bon sens. Alors, le bon sens peut se tromper, mais enfin, il faut quand même l'écouter aussi, quoi.
Il y a ça aussi sur l'euro ou pas? Il faut sortir de l'euro ou c'est moins...
Mais si je suis beaucoup moins clair, je crois que l'une de mes forces, j'ai une très faible capacité d'abstraction et de théorisation. Et en fin de compte, c'est déjà un problème que... Enfin, c'est un problème que j'avais au lycée, en termes de probabilité. Je suis devenu nul en calcul des probabilités quand ça c'est devenu abstrait. Et en fait, cette faiblesse théorique, en un sens, j'en ai fait une force. Parce que je passe par le reportage, je passe par des choses concrètes, matérielles, plutôt que de partir en généralité, et ce qui est quand même soit un travers, soit une force, j'en sais rien, mais de la gauche critique, qui va tout de suite, très vite, à la théorie et aux généralités. Donc sur l'euro, je suis très critique vis-à-vis du fonctionnement de l'euro. J'ai fait des reportages sur la Banque Centrale Européenne. Je me suis rendu sur place parce que je ne comprenais pas comment était créée la monnaie. Tu vois, on te dit comment est créée la monnaie. C'est au quatrième étage de la Banque Centrale Européenne que j'ai compris concrètement comment était créée la monnaie. Quoi. Et donc, je ne suis pas aussi...
Ce que je demandais, c'était plutôt les ouvriers à qui tu parles. Tu dis, pour eux, c'est évident qu'il faut mettre des barrières protectionnistes. Je me demandais, est-ce que pour eux,
ça me paraît moins
pour l'euro,
évident.
c'est moins évident,
tu vois. Et pour moi, ça l'est moins aussi. Je pense qu'avec l'euro, on rentre dans un truc qui est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas en sortir et tout ça, hein, mais on rentre dans un truc qui devient tout de suite moins matérialisable.
D'accord. En tout cas, c'est bien que tu parles de ce genre d'enquête que tu as fait. C'est vraiment ça que je trouve intéressant dans Fakir, c'est que ce n'est pas un canard enchaîné local où tu révélais telle ou telle magouille. C'est un journal qui, sur tout ce qu'il y a de scandaleux dans le fonctionnement parfaitement légal de la société. Enfin, les délocalisations, c'est légal et ça détruit les vies. Et c'est ça que tu montres.
C'est-à-dire que c'est comme une espèce de toile d'arrière-plan qu'on n'aperçoit même plus parce que c'est notre décor ordinaire. Et rendre visible ce décor et proposer des choses saillantes à l'intérieur pour qu'on ait, pour que redonner envie de comprendre ce qui fait le décor de nos vies, c'est l'un des objectifs. Et l'autre objectif est quand même un objectif de transformation, quoi. Je pense que l'une des originalités de Fakir, c'est qu'on propose aux lecteurs de participer à des actions.
Oui, c'est ça. Tu as une manière de faire des enquêtes qui est complètement, peu orthodoxe, dans le sens où t'as aucune prétention à être neutre. Au contraire, tu vas carrément, quelquefois, façonner l'événement, créer l'événement ou rendre service aux gens, essayer de les aider. Là, dans le film, tu vas aider le couple des Clure, les anciens salariés de LVMH, à essayer de piéger leur ancien patron. Le livre que t'as fait, Quartier Nord, sur la cité d'Amiens, tu rends service aux gens. En fait, c'était complètement... t'interviens complètement.
Oui. D'abord, moi, j'ai jamais cru à l'objectivité, mais même avant de lancer Fakir, je préfère une subjectivité assumée à une fausse objectivité. Ouais. Donc, voilà. Et ensuite, il y a quelque chose que je construis. Pourquoi les gens viendraient parler à Fakir? Maintenant, c'est autre chose. Mais pendant des années, c'était quand même quelque chose d'inexistant. Le fait de rendre service, il y a information contre service, quelque part. Bon, et ensuite, par ailleurs, je crois que quand on est un petit journal comme le nôtre, on ne peut pas se bercer de l'illusion qu'avec nos 15 000 acheteurs, grosso modo, derrière, il va se produire des choses qui, si on dénonce quelque chose, un scandale, que derrière, ça va être résolu par nos lecteurs. quelqu'un qui fait des papiers dans Le Monde ou quand je passais à la Bastille, on pouvait avoir cette espérance que derrière il y avait des auditeurs, qu'il y avait peut-être des députés au milieu, qu'il y avait des syndicalistes et tout ça qui allaient saisir de la question. À Fakir, tu ne peux pas faire ça. Donc tu es obligé d'assurer une espèce de service après-vente.
Ouais.
Tu vois. Ouais, ouais. Et donc de mener l'action. Qui, tu vois, sur un accident du travail, c'est un beau dossier que je porte depuis 15 ans, sur de l'air à France Inter, sur un mec qui souffre d'une maladie professionnelle, à produire l'action, pas tout seul, éventuellement avec tes abonnés, tout ça, qui va permettre la transformation de l'ordre des choses. Quoi.
Alors, donc, dans Fakir, une des choses que tu fais, qu'on voit nulle part ailleurs quasiment, c'est de rendre visibles les classes populaires, c'est ce que... C'est le projet de l'ère à France Inter, c'est justement de montrer à quel point elles sont invisibles dans les médias mainstream en général. Mais tu as aussi réussi à coincer des PDG, des ministres, des puissants. Mais ça, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'était beaucoup quand tu étais à France Inter, parce que c'était que tu te servais, donc quand tu travaillais pour Mermel, là-bas si j'y suis, c'est parce que tu pouvais dire France Inter, c'est ça?
C'est clair. C'est clair que quand j'avais la carte France Inter, à droite ou chez les importants, tu disais France Inter, et à gauche, tu disais là-bas, si j'y suis, ça t'ouvrait. Mais ça a toujours été mon plaisir, et je l'ai toujours, ce plaisir, rencontrer l'adversaire, soit pour lui rentrer dedans, soit pour l'accoucher de sa vérité, tu vois. Et j'ai toujours ce plaisir-là. J'ai plus de plaisir à aller rencontrer mes adversaires et avoir une espèce de montée d'adrénaline qu'à interroger des gens dont je suis déjà proche, quoi.
Ouais. Ouais, je me rappelle, la BCJ, tu avais eu Trichet.
Ouais.
Il était président de la Banque Centrale déjà à l'époque.
Il était bon. Non,
et tu avais juste dit France Inter et c'était possible?
Non, j'avais dit, la BCJ, en plus, il m'avait ouvert les portes. C'est ça qui est bizarre.
Enfin, ah ouais, d'accord.
Mais là, en l'occurrence, oui, c'était formidable. C'était un moment. Parce que. Enfin, c'était l'un des moments. J'en ai vécu quand même pas mal. Mais. À la BCE, en plus, je m'étais bien arrangé pour mettre l'entretien Trichet à la fin. Parce qu'il me faisait toute la visite de la Banque Centrale Européenne pendant une journée et demie. Et donc, tu vois, la compréhension des mécanismes et tout ça, ça m'intéressait. Ouais. Avec quelques moments où je glissais un peu sur le côté, mais tu vois, tu les brosses dans le sens du poil pour qu'ils accouchent de leur truc et tout ça. Puis des moments, tu dérapes un petit coup, ils te demandent de où vient le scud. Et puis après, tu redeviens sympa. Ouais. Mais parce qu'il faut tenir avec les gens pendant une journée et demie. Et après, Trichet, là, c'était la totale. Et je suis sorti de... Donc, on était dans la grande salle du conseil de la BCE, je sais pas, avec une immense table, comme on voit dans... C'est quoi le film de Kubrick, là, où...
Docteur Falamour.
Docteur Falamour, tu vois, ils sont autour d'une grande table comme ça, et avec tous les conseillers aux communications de Trichet autour, qui m'ont amené vers lui et tout ça, lui qui m'aura... Bon, et là, je balance des trucs, il a jamais entendu ça. Il a jamais entendu... En frontalement comme ça, une remise encore de son parcours et du modèle économique qu'il propose, je pense. Hein. Et donc, la température baisse de quelques degrés à la fin, c'est le congélateur, quoi. Tu vois, tous les mecs qui t'ont guidé pendant... Mais c'est ça à gérer humainement, parce que Trichet, il est là. C'est ça qui est bien aussi dans le fait de rencontrer l'adversaire, c'est que c'est plus la théorie, c'est un homme aussi. Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est un homme qui est à côté de toi. Avec ses rides, avec sa fatigue, le mec il est en train de faire ses notes de frais, enfin j'exagère, mais avec placer ses billets d'avion pour se les faire rembourser, tu lui demandes d'agiter sa petite clochette, bon, il serait prêt à te parler de ses enfants, tu vois, un truc comme ça, et boum, là tu dois quand même lui rentrer dedans, et c'est pas évident, parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, on est éduqué à une certaine, quand on est bon élève, moi j'ai pas été que bon élève, mais on vient de milieux en général où... on n'est pas heurté en permanence et on n'a pas besoin de se cogner en permanence aux gens, tu vois. Et donc, se dire, bah, ça y est, là, il a l'air sympa et puis tout ça, je pourrais très bien boire un café et on se raconterait nos vies, il me causerait de ses musiques préférées, de ses bouquins, on parlerait littérature, tu vois. Et pourtant, il va falloir lui rentrer dans la gueule, quoi. Bon, c'est des moments qui sont... où tu as une espèce de divorce au sein de toi, quoi. Mais bon...
Mais enfin, je pensais que vous alliez m'interroger plutôt sur la Banque Centrale Européenne que sur des sujets entièrement politiques. Là. Je dois dire, je ne suis pas sur mon terrain. Là.
Mais moi, je fais un truc sur toute votre carrière.
Oui, oui mais moi, je ne suis pas un homme politique en plus. Moi,
quand même.
Vous nous posez.
Les décisions, les réformes structurelles qui sont proposées.
Oui.
Justement, vous, quand même, de temps en temps, vous intervenez quand même dans le débat politique. Vous êtes intervenu sur le CPE pour dire que vous étiez favorable à plus de souplesse sur le marché du travail. au moment de la réforme de la Sécu en 95, vous êtes intervenu également.
Écoutez, c'est une grille entièrement politique, là. Je suis un peu surpris.
Là, les réformes qui sont menées en ce moment partout en Europe, ce sont des réformes sur les salaires, sur les retraites, sur les privatisations. C'est-à-dire que si vous étiez resté conseiller de Valéry Giscard d'Estaing ou directeur de cabinet d'Edouard Balladur, on dirait que c'est un programme de droite, que c'est un programme néolibéral. Et du fait que vous êtes à la Banque Centrale Européenne, c'est toute la force de votre discours, toute votre réussite, c'est que finalement vous avez rendu ces réformes, vous leur avez donné la couleur de la nécessité.
Non, je crois très franchement que ce n'est pas la bonne grille de lecture du tout, du tout, du tout. D'abord, la Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales nationales, elle est au service de toutes les sensibilités politiques. Elle est au service de tous nos concitoyens et, comme je l'ai dit, avant tout des plus pauvres et des plus démunis d'entre eux. Maintenant, vous avez une grille d'interprétation qui ne me paraît pas non plus être bonne sur le plan des réformes structurelles. En Allemagne, c'est la gauche qui a mené à bien les réformes structurelles dans les années 2004-2005, qui ont été d'ailleurs extrêmement ambitieuses et qui ont permis de diminuer assez considérablement le chômage. C'est la gauche qui a mené ces réformes. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire un découpage qui serait simpliste, à mon avis. Encore une fois, une banque centrale, de toute manière, est au service de toutes les sensibilités politiques par construction. Il ne peut pas en être autrement. Ma fierté, c'est que nous ayons fait ce que nos démocraties politiques nous ont demandé, dans toute leur sensibilité, c'est-à-dire de donner la stabilité des prix autant que possible dans une période très difficile. Nous avons donné la stabilité des prix à 332 millions de concitoyens. 332 millions de concitoyens. Nous croyons, non seulement légitime, mais indispensable, de dire ce que nous croyons devoir dire s'agissant des meilleurs moyens pour diminuer le chômage de masse. Bien entendu, dans la justice, en respectant ce que nos démocraties politiques pensent. Ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche, ça. Mais encore une fois, nous sommes apolitiques.
Et il y a un autre procédé que tu affectionnes, c'est parfois un peu à la limite, enfin souvent en tout cas avec les puissants, justement, c'est le canular. Et là, pareil, ça a une vraie valeur journalistique, en fait. C'est pas juste rigolo, le canular.
Je pense que j'ai... Bon, ça, j'ai déjà dit.
Oui, tu l'as dit à Richard
Image. Mais... Oui, Jean-Yves Lafesse.
Ouais.
Moi, j'ai essayé de Jean-Yves Lafesse que j'écoute.
Ouais.
Je prétends faire parfois. Mais après, moi, si tu veux, il faut quand même dire la vérité, c'est qu'à Fakir, j'ai 90% de logistique à faire, quoi. Ouais. Et je fais 10% de journalisme. Mmh. Bon. Mais oui, de vouloir faire du Lafesse politique.
Ouais.
Du truc qui prenne un sens et tout ça. Ouais. Même de temps en temps, tu vois, je me souviens d'appels où ça tombait pas pour la basse j'y suis, ça tombe pas dans la politique. Mais ça se met à déconner, à partir complètement en vrille avec la personne au téléphone.
Ouais.
Mais c'est marrant quand même. Oui. Je veux dire, moi, je prends la fantaisie. Si j'apporte de la fantaisie aux gens, des fois, ça peut être ça aussi. Hein. Ça leur remet du baume au cœur. Ils ont bien rigolé pendant 10 minutes. Et puis,
c'est vrai. Et juste une petite question technique. C'est pas illégal, le canular. Ils ne peuvent pas faire des procès pour... si jamais ils ont été ridiculisés, ils ne peuvent pas...
Je ne sais pas. Je ne pose jamais trop les questions en termes juridiques.
Ouais, d'accord. En tout cas, ça t'a pas empêché de le faire. Bon, alors, je voudrais en savoir plus sur le fonctionnement de la rédaction à Fakir. Comment vous décidez des sujets, enfin, vous avez des conférences de rédaction toutes les semaines. C'est quoi le rythme?
Ouais. Bon, ceci dit, ça a été longtemps un journal où il y avait...
Là, maintenant, c'est un trimestriel à peu près?
Ouais, tous les deux mois.
Tous les deux mois.
Voilà, en gros.
Ouais,
mais bon, maintenant, il y a une équipe de rédaction. Longtemps, il n'y en a pas eu quand même.
Ouais.
Je veux dire, c'est un journal, en tout cas... d'un seul homme, peut-être pas, parce qu'il y avait quelques papiers qui arrivaient d'ailleurs, mais enfin, qui étaient... Bon, maintenant, en principe, dans la vie normale du journal, on a une réunion toutes les semaines. Mmh. On a beaucoup trop de sujets pour le nombre de pages qu'on a, donc c'est bien, parce que ça nous force à éliminer des trucs.
Ouais.
Donc, voilà.
Parce qu'il y a quelque chose qui t'est parfois reproché, mais que tu sembles complètement assumer, c'est ce que tu viens de dire, c'est le journal d'un seul homme, c'est Fakir, c'est François Ruffin, c'est toi qui l'as créé, t'as longtemps... Enfin, tu crées encore une grande partie... des articles, tu le vends toi-même à la criée dans les festivals, dans les manifs. Mmh. On pourrait élargir et parler du film dans lequel tu es très présent aussi, comme Michael Moore. Et en termes de management, il n'y a pas de doute, c'est toi le chef, et pareil, t'assumes complètement. Dans l'article que tu avais consacré à tes années, La Bastille, j'y suis, tu dis que c'est quelque chose que tu affirmes explicitement pour pas qu'il y ait de malentendu. Tu dis « Fakir n'est pas une démocratie, nous sommes là, et c'est différent pour apporter de la démocratie vers l'extérieur, que notre journal demeure une voix dissonante, la plus forte possible. » Et même dans un autre passage, « Pour être traité de tyran, j'attends mon tour, on ne pourra pas dire au moins que j'ai caché mon jeu. » Et donc évidemment, il y a beaucoup de gens à gauche qui trouvent ça très problématique, qui pensent que, en tant que chef d'un collectif de gauche, tu devrais être exemplaire.
Je ne suis pas exemplaire, moi. Non, mais voilà, ouais. Ça c'est clair. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse porter des ailes d'ange, parce que les ailes d'ange, ça se transforme très vite en queue du diable. Moi, je ne suis pas un saint homme. L'origine de Fakir, c'est un projet individuel, qu'on le veuille ou non. Et c'est dans, du coup, ça porte un espèce d'ADN, comme ça. Bon, après, moi, je préfère me décrire et dire aux gens, quand ils rentrent à Fakir, attention, ici, il y a Staline, parce qu'en fait, ils découvrent que c'est pas ça, que de leur dire, écoutez, ici, c'est super, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous copains, et puis qu'ils soient déçus. Donc, je préfère la douche froide en rentrant, et puis après, c'est peut-être un peu plus sympa que la couleur annoncée, quoi. Ouais. Mais bon, et puis par ailleurs, moi, je pense que c'est plus le cas. Il y a un collectif maintenant. Mais il y a des journaux qui ont été faits par un seul homme, des Valais, des journaux de la Révolution française et tout ça. Et voilà, ça peut être ça aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle, mais ça pourrait être ça aussi, quoi.
Ouais, ouais. Mais ça, oui, donc non seulement t'es autoritaire, hein, comme t'es Staline, mais en plus t'es exploiteur, on dirait, vu qu'il y a une exploitée du mois dans chaque journal.
Mais on est surtout auto-exploiteur, parce que, sans vouloir, le premier exploité de cette histoire, c'est moi.
Oui, mais t'es aussi le premier à en retirer les bénéfices.
Oui, symbolique. Bon, mais autoritaire, bon, oui.
Non, mais
je pense que je suis...
Et du coup, en fait, ce qui est...
Ouais, de la même manière qu'il y a des décisions à prendre sur le terrain rédactionnel qui ne se prennent pas au consensus. Donc voilà, maintenant, je le dis, à la fin, c'est moi qui décide, mais je suis quelqu'un de très influençable. Et c'est vrai qu'on va me dire un truc, ça va me travailler et machin, et je vais peser avec beaucoup de doutes et tout ça. Mais à la fin, c'est moi qui vais décider très souvent quand même.
Ouais. Donc, bon, on parlait d'exploitation. J'imagine que ça a évolué, mais donc on peut peut-être dire deux mots sur le modèle économique, vu que c'est aux ressources. Comment ça tient financièrement un journal qui est fâché avec tout le monde ?
Bah, ça tient parce qu'il y a les lecteurs. Hein. C'est 99% de nos ressources, c'est les abonnés, les ventes en kiosque et les achats de livres, quoi, en gros.
Ouais.
Après, il y a les livres.
C'est tiré à combien, Fakir ?
Bon, là, on a tiré à 130 000 exemplaires, je crois, parce qu'on veut s'appuyer sur le film pour gagner les parts de marché qui peuvent être gagnées. Non, mais voilà, si on ne tente pas un coup maintenant, on ne le tente jamais.
Et celui d'avant, c'était tiré à combien ?
30 000. Normalement, on est toujours à 30 000 de tirage et on est à 15 000, 16 000 de diffusion réelle.
D'accord.
Voilà. Mais
qu'est-ce qui coûte cher ?
Qu'est-ce qui coûte cher ? Mais on est très riche à Fakir, grosso modo, parce qu'on se paye pas. Si jamais on se payait.
Je pensais que tu te payais.
Non, moi, je me paye de temps en temps, mais là, je suis au chômage, c'est acédique. Hein. Tu pourras le dire. Ça se passera bien avec Pôle emploi, comme ça. je remercie toujours les acédiques à la fin de mes livres, moi, parce que c'est toujours les acédiques qui ont payé.
Est-ce que tu étais salarié ?
J'étais salarié de Fakir pendant 14 mois.
Ah ouais, d'accord.
Et là, du coup, j'ai le droit à 23 mois d'acédique. Okay. Mais bon, là, je vais basculer, j'espère, intermittent sur le film. Enfin, voilà,
Le
numéro de journal comme ça. Et les copains de Fakir, hors période exceptionnelle, là, parce qu'on traverse une période exceptionnelle où on a décidé de passer tout le monde à plein temps. Donc, il doit y avoir 5 ou 6 salaires à plein temps pour jusque juin. Sinon, ça fonctionne beaucoup sur...
Il n'y a pas de salarié du tout, alors ?
Si.
Enfin, d'habitude ?
Si, si, il y en a un ou deux.
D'accord. Voilà. Et toi, tu pigeais pas mal, enfin, de temps en temps pour le monde diplomatique, et puis à une époque beaucoup pour l'Abbas si j'y suis, c'est ça qui...
L'Abbas si j'y suis, je veux dire, ça a fait ma fortune.
Ouais.
Non, voilà, j'ai considéré que j'étais très bien payé à l'Abbas si j'y suis, surtout quand t'es habitué à vivre avec pas grand-chose. Donc, ce qui fait que je pense que le journal aurait pas pu tenir de la même manière si j'avais été sous contrainte financière. Tu vois, et là, on n'a pas eu à courir là-dessus. Donc, on peut mener des projets de développement, on pourrait ainsi parler, mais je veux dire, le film, c'est un projet qu'on peut financer quand même. On peut mettre 40 000 euros dans le film parce qu'on n'est pas à courir après. Donc, on est relativement riche pour tout ce qui est pas les salaires. C'est-à-dire, on a une belle baraque, on a un...
Vous louez des locaux ?
Ouais, on loue des locaux, ouais. Il y a une belle maison à Amiens. Il n'y a pas de jacuzzi à l'intérieur, mais bon.
Je sais, ça, on sait tous les mois.
mais il y a... Voilà, on bouffe bien. S'il faut aller faire des reportages, on paye les frais de transport. Enfin, ouais. Tout, sauf les salaires. C'est là que ça que tu reconnais pas ton gauche.
Ouais, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas... Pas de pigiste qui vous propose des...
Si, mais moi, je ne suis pas pour fakir. Faire du fakir, ça demande une formation. Ouais. Un mode d'approche...
On dirait du mermet, là. Hein? On dirait mermet qui parle de là-bas, si j'y suis.
Bah, peut-être, ouais, mais ça demande une formation. Mmh. Ça demande un mode d'approche du réel. Comment on passe de l'information à l'action. Ouais. Ça demande des tas de trucs comme ça pour que ça ne soit pas... Je n'ai pas envie de faire un journal qui est un collage de trucs, quoi. Mmh. Non, c'est un truc qui est pensé dans sa globalité, en termes d'équilibre à l'intérieur. Alors pour les lecteurs, peut-être que ça ne se voit pas et tout ça, et peut-être que c'est raté aussi. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de faire le canard. Ouais. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas envie d'avoir 40 correspondants qui m'envoient les papiers de l'autre bout de la France, ouais. Tu vois. Moi, ce que je veux, c'est une équipe commando. Je veux un commando. Ouais. Et donc, des gens qui sont aguerris sur le plan journalistique, mais éventuellement aguerris aussi sur le plan de l'action, quoi.
D'accord. Et donc pour le financement, globalement, c'est vente et abonnement, pas de pub.
Non.
Tu refuses les pubs parce que... bon,
Non, j'en ai jamais eu. Ouais. Si, peut-être au premier numéro. Mais en fait, au premier numéro, j'étais pas forcément radicalement hostile.
Ouais,
à
quand
la
même
publicité.
Le monde diplomatique a des pubs.
Voilà. Voilà. Donc bon, mais en fait, ça demande tellement d'énergie d'aller chercher la pub et on n'en a pas besoin. Ouais. Quoi.
Et pas de subvention.
Non, il y a que les bouquins. Quand c'était avec le nouveau conseil régional, à mon avis, ça ne sera pas la même chose. Et puis en plus, il est à Lille. Mais les bouquins, il y avait des aides de la région pour la publication de livres, sur certains des livres. Mais bon, c'est 99%, c'est nos lecteurs, quoi, c'est tout.
Ouais. Et c'est bien distribué dans tous les kiosques ou...
Bah là, on se réimplante, donc on est à peu près dans énormément de kiosques, presque tous les kiosques. Et sinon, on est dans 8000 kiosques sur 30 000 ou un truc comme ça.
D'accord.
Donc un kiosque sur quatre, ça se trouve quand même.
Ouais, ouais. Et donc en 2009, vous êtes passé en diffusion nationale.
Oui.
Ça a changé quoi ? Parce que moi, je ne le connaissais pas avant le journal. Qu'est-ce que ça a changé pour le contenu ?
Oh, bah, ça change quand même beaucoup de choses. Avant, on avait quand même un petit côté canard enchaîné local, dont tu parlais tout à l'heure, avec révélation des affaires, et c'est ce qui intéressait les gens aussi.
Ouais.
En même temps, on traitait déjà. On faisait de l'intérim, on parlait d'intérim, mais on en parlait sur Amiens, mais il y avait plein de gens qui s'abonnaient d'ailleurs parce que finalement il n'y a pas de canards qui font leur une sur l'intérim et qui vont interroger des gars des quartiers nord pour savoir comment ils cherchent le boulot, voire les accompagner. Là par exemple, je me retrouvais à faire comme si j'étais un éducateur pour accompagner le frère d'un copain et à essayer d'aller lui trouver les missions d'intérim. Et ça, c'est ce type de démarche n'était pas présente déjà dans la presse. National. Ouais. Et donc, il y avait pas mal de personnes qui déjà s'abonnaient à Fakir parce qu'il y avait ça, tout en n'étant pas du département.
Ah ouais.
Donc, en 2009, on a franchi, on a fait un saut, et on est passé national. Quoi.
D'accord. Bon, donc, pour rester sur les questions de sous, le financement du film, tu as dit que ça a coûté 40 000 euros, c'est ça que tu dis ?
Ouais.
40 000 euros
bon, dans
ce film ?
Dans un premier temps, le cadreur, la preneuse de son, la monteuse et mes chips. Voilà. Donc, les frais d'essence et machin, on est à peu près à 40 000 euros. Et ça a été la trésorerie de Fakir qui l'a mis.
Ah ouais, d'accord. Bon, alors, tu m'as dit avant l'émission que ça t'emmerdait un peu de parler du CNC, mais rapidement sur, donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas eu donc, de financement. Arrêt sur image, dans l'émission, Anne-Sophie explique que... quand elle leur a demandé, c'était parce qu'il n'y avait pas de qualité cinématographique, quelque chose comme ça. Je me suis dit, ça devait pas... Que toi, tu n'avais pas forcément une revendication de faire du grand cinéma. Et ça se trouve, c'était juste... C'est pas tant un complot ou une peur de Bernard Arnault, simplement le CNC qui a une vision du cinéma comme étant quelque chose qui devrait avoir une réflexion formelle, de l'innovation esthétique et que...
Je les emmerde.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai une réflexion formelle.
Ouais, voilà, c'est ça que j'avais dit.
C'est peut-être pas la réflexion formelle d'abord, je pense que c'est de la foutaise. Je pense qu'on se cache derrière des motifs esthétiques pour masquer la trouille politique, économique de la fondation LVMH, quoi. Voilà, bon, ça. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai des prétentions formelles. Ouais. Je vais pas dire que je suis un grand réalisateur et puis tout ça, mais pour faire des choses comme ça avec les gens, il y a de la mise en scène, il y a des choix esthétiques, ouais. Et il y a une manière de faire, alors pas forcément de poser la caméra, le cadre et puis tout ça, mais il y a des manières de rentrer en contact avec les gens. C'est un film et qui est pensé en termes de narration, de montage, de tout ça. Voilà.
D'ailleurs, c'est ce qui apparaît très bien dans la critique du Monde. Qui est dithyrambique, donc, où il dit question mise en scène, tension dramatique et jubilation du spectateur. On a d'ailleurs basculé du côté de la fiction, Ernst Lubitsch pour le quiproquo, le déguisement, Franck Capra pour le grain de sable humaniste, Bruno Dumont. Donc voilà, pour le critique du Monde, c'est un vrai objet de cinéma. Mmh. Donc voilà, ça contredisait cette dichotomie entre ça serait un objet d'éducation populaire, forcément un peu moche, et du vrai cinéma, quoi.
Tant pis si je suis prétentieux, mais encore une fois, moi je ne considère pas être un réalisateur. J'ai fait un film, je dirais presque par inadvertance. Par contre, je pense que je sais raconter des histoires. Je sais raconter des histoires, je sais entrer en contact avec les gens, et mes années de là-bas, si j'y suis, m'ont offert un sens du rythme. Donc voilà. Et puis je suis quand même nourri, par du Marivaux, par Capra. Enfin voilà, je suis nourri quand même par un certain nombre de voilà. With the newspapers and the radio stations that these gentlemen control, we can kill the John Doe movement deader than a doornail. We'll do it too the moment you step out of line. Now, if you still want to go to that convention and shoot your trap off, you go ahead and do it. You mean to tell me you'd try to kill the John Doe movement if you can't use it to get what you want? You bet your bottom dollar we would. Well, that certainly is a new low. I guess I've seen everything now. You sit there back at your big cigars and think of deliberately killing an idea that's made millions of people a little bit happier. An idea that's brought thousands of them here from all over the country, by bus and by freight and jalopies and on foot, so they could pass on to each other their own simple little experiences. Why, look, I'm just a mug and I know it, but I'm beginning to understand a lot of things. Why, your type's as old as history. If you can't lay your dirty fingers on a decent idea and twist it and squeeze it and stuff it into your own pocket, you slap it down. Like dogs, if you can't eat something, you bury it. Why, this is the one worthwhile thing that's come along. People are finally finding out that the guy next door isn't a bad egg. That's simple, isn't it? And yet a thing like that's got a chance of spreading till it touches every last doggone human being in the world, and you talk about killing it. Why, when this fire dies down, what's going to be left? More misery, more hunger, and more hate. And what's to prevent that from starting all over again? Nobody knows the answer to that one, and certainly not you with those slimy, bollocks-up theories you got. The John Doe idea may be the answer, though. It may be the one thing capable of saving this cockeyed world. Yet you sit back there on your fat hulks and tell me you'll kill it if you can't use it. Well, you go ahead and try. You couldn't do it in a million years with all your radio stations and all your power. Because it's bigger than whether I'm a fake. It's bigger than your ambitions. And it's bigger than all the bracelets and fur coats in the world.
You bet it is, John.
And that's exactly what I'm going down there to tell those people.
Alors, dernière question un peu économique sur le fonctionnement. Là, vous avez quand même une diffusion pas mal, en fait, dans MK2. Ça, c'est difficile à obtenir, ce genre de...
Moi, j'ai fait tout. Je savais que j'avais un film potentiellement populaire. Ouais. Je veux dire qu'il n'y a pas de barrière culturelle à l'intérieur du film. Et j'ai tout fait, si tu veux parler d'esthétique encore un peu, pour que l'esthétique du film... Moi, ce que je veux opérer, c'est une jonction de classe dans la société. Entre les deux corps sociologiques de la gauche, la petite bourgeoisie intellectuelle et les classes populaires. Bon, je pense que j'ai un film qui permet ça, parce que c'est un truc qui va des intello aux populos. Lordon, Rimbert, Halimi, Garnier, Mordilla, tout ça aime le film. Et de l'autre côté, moi je suis en train de refaire le rez-de-chaussée de ma baraque, parce que j'ai 10 degrés de différence entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est vachement important que vous... vos spectateurs ils soient informés quand même de mes travaux chez moi. J'ai invité le plaquiste, le peintre et tout ça à venir et ils ont adoré le film. Ils avaient les yeux rougis, tout ça. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, l'esthétique à l'intérieur du film elle est transclasse aussi. C'est-à-dire que c'est un film d'auteur, ça démarre comme du Nanni Moretti où je m'adresse directement à la caméra, mais ensuite, il y a La Petite Maison dans la Prairie, il y a le titre Merci Patron, il y a tout ça. Ouais. Tout ça, j'ai déjà dit dans un reste sur image, non ?
Je sais plus, je t'ai déjà entendu dire le truc sur le rez-de-chaussée, mais c'est pas grave, c'est normal. Hein. Si, moi j'ai déjà entendu, mais c'était obligé de te répéter. C'était ailleurs, ouais.
Ah bon, bah, j'aurais pu faire mieux alors, parce que du coup, je croyais que ça avait déjà été dit chez votre partenaire, et donc je décidais de le faire un peu comme ça, bon, genre, ça sera pas monté.
Mais c'est vrai que je sais plus, là, parce que j'ai vu un peu tous tes entretiens avant, ouais. Donc je sais plus, mais bon, c'est pas grave.
Mais par contre, il y a des barrières culturelles à l'extérieur du film. C'est-à-dire qu'aller dans une salle de cinéma à RSC, pour les classes populaires, ça va pas du tout de soi. Donc, amener les gens, je vois quand même que la CGT, elle est bien, enfin, elle est sympa, ça se passe bien, je suis content. Je suis content d'avoir le sentiment que ce syndicat, ça dépend des lieux et tout ça, c'est pas le syndicat CGT, mais il y a souvent des gens de la CGT qui amènent des gens de leur boîte et tout ça dans les projections, et ça, c'est vachement agréable. T'as l'impression que y a des salles qui respirent, quoi. Tu vois, que tu fais pas ça pour les profs seulement.
C'est ça que tu me disais avant l'émission, c'est que t'avais une projection qui te tenait à cœur.
Oui, et puis, la première solution, c'est qu'il soit amené dans les salles. Ouais. Et il y a quand même des endroits où, pour des fractions, ça marche. Et puis, la deuxième solution, ça va être, je pense, plus ensuite, après sa diffusion-là, mais d'amener les films vers les gens. Et c'est vrai que moi, dans la Somme, donc ça commence samedi à Ham, tu vois, dans un bled de la Somme. Et l'objectif, c'est de le faire quasiment dans toutes les salles municipales possibles de mon département, parce que je pense que là, moi, je parle d'un département où on a 43% de vote Front National au dernier régional. Et c'est bien à eux qu'il s'agit d'aller porter le film, tu vois.
Mais justement, j'allais demander, quelle est la cible ? Je crois que c'est dans le dernier numéro de Fakir, où tu dis finalement, je fais pas l'éducation populaire, finalement j'éduque la petite bourgeoisie, qui a presque encore plus besoin d'être éduquée que les classes populaires. Ouais. Mais en même temps, ta cible c'est aussi ceux qui votent Front National.
C'est d'autres
trucs. Je sais pas.
Je pense que quand on parle d'éducation populaire, moi je me méfie vachement quand on met le mot populaire, parce qu'il y a plein de trucs comme ça qui ne le sont pas du tout. Quoi. Ouais. Mais ensuite, je pense que Serge Clure, l'ouvrier licencié de chez LVMH, là, il éduque les spectateurs. Sur sa vision de la société française, sur là où il en est, qu'est-ce que ça veut dire. À travers Serge Clure, on comprend ce que c'est que la violence sociale. On comprend que ça produit des dégâts psychologiques qui ont éventuellement des conséquences politiques. Et donc, il faut accepter que la petite bourgeoisie soit éduquée par Serge Clure et que, j'espère, à travers cette figure, elle éprouve un mouvement de solidarité vers les classes populaires. Et alors que pour moi, on vit dans la durée un grand moment de disjonction de classe sur 30 ans. Quoi. Alors, est-ce que c'est en train de se fermer ? Est-ce que ce film peut aider à se fermer ? Mais voilà, alors là, j'aime bien citer Lénine à ce moment-là, qui dit « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Ben, » il y a un devoir aussi de faire basculer avec ceux d'en bas. Et après, et si jamais la petite bourgeoisie qui est quand même très présente dans les partis, se met à vraiment vouloir avoir ça suppose des modes d'accroche vers les classes populaires qui soient différents et un programme qui est différent aussi. Donc voilà, et ensuite, moi, le film, il peut fonctionner quand même auprès des classes populaires déjà comme outil qui redonne de la joie, qui rouvre. Un peu d'enthousiasme, au moins pendant une heure et demie, et qui porte quelque chose, tu vois, et qui donne de l'émotion, et l'émotion, c'est ce qui met en mouvement aussi. Je raconte dans le papier, mais Marine Le Pen, qui fait 400, 500, 600 personnes à Oisemont, donc dans un bled de la Somme, à l'automne, putain, c'est stupéfiant. Mon objectif, c'est que Merci Patron fasse 400, 500, 600 personnes à Oisemont, et que ça porte derrière un autre discours que celui de Marine Le Pen, quoi.
Ouais. Ouais, donc c'est de cibler aussi les électeurs de Marine Le Pen.
Ah oui, moi, j'ai pas le choix.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas la petite bourgeoisie intellectuelle.
Non,
ça,
non,
c'est
non, bien... non, mais il y a une double fonction.
Ouais, c'est
quoi.
Ça, ça.
Il y a une double fonction.
Enfin, ouais, j'ai une question subsidiaire. Parce que justement, tu as tout un dossier sur le soi-disant choc FN, qui n'est pas du tout un choc, puisque ça, on va vers ça depuis 30 ans. Mais pourquoi, donc, je te demande à toi, puisque tu es un des rares journalistes à parler aux gens, aux classes populaires, pourquoi ils ne votent pas Mélenchon?
Est-ce que t'as pas... Moi, je suis de la gauche critique. Est-ce que t'as pas honte de la gauche critique? Est-ce que tu crois pas que le spectacle qui est offert... potentiellement, il y avait un début de quelque chose en 2012 avec Mélenchon et un début de proposition qui allait dans... qui faisait que la colère populaire pouvait trouver un réceptacle qui soit pas Marine Le Pen. Ouais. Bon, avec Marine Le Pen, qui a quand même, sur le terrain économique, qui a quand même un discours très efficace.
Ouais. Protectionniste, pour
voilà,
le coup,
assumé. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on part avec un boulet si on n'a pas ça. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est programmatique, mais c'est peut-être pas l'essentiel. Mais t'as vu le comportement de la gauche critique depuis 2012, ces querelles de chapelle et tout ça.
Les divisions.
Ces divisions, de toute façon, c'est invisible. Donc, on est de nouveau invisible dans l'espace social parce qu'il faut avoir une masse critique pour que les gens qui ne font pas de la politique tous les jours, ils aient des points de repère.
Ouais.
Là, il n'y a pas de point de repère. Je veux dire, moi, j'appartiens à ce camp et j'y appartiens avec honte.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, on peut pas reprocher aux gens de ne pas choisir cette solution-là, quoi. Ouais. Vu qu'elle n'existe pas.
Ouais, ouais, d'accord. Alors attends, je reviens à mes questions sur les cibles, tes lecteurs. Les lecteurs de Fakir, c'est pareil, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle, en gros, ou enfin, tu sais qui lit
Bon, je sais pas, mais je les rencontre. Ouais. Je pense que, tu vois, j'avais des gens hier qui étaient au PG et qui me disent au PG, ce sont en gros les popus du PG qui disent Fakir, tu vois. Okay. Donc je pense que on a effectivement des profs, des éducateurs et tout ça qui lisent Fakir, et que dans ce qui est dissident, on est le truc le plus populaire des dissidents. Ça ne représente pas énormément, sans doute. Mais voilà, et je sais qu'en gros, on est quand même...
Un monde diplomatique un peu populaire, quoi.
Oui, un peu plus. Chez les délégués syndicaux, on a quand même une bonne écoute chez un certain nombre de délégués syndicaux. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
Et tu crois que... Un film peut justement aller... c'est ça la force d'un film. Comme ça, c'est que ça peut toucher beaucoup plus large.
Là, je sais que j'ai quelque chose de potentiellement populaire. Après, moi, je crois que la fonction d'un journal... Un journal, ça ne sera plus jamais un média populaire. Un journal naissant. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne remplit pas d'autres fonctions idéologiques, mais ça ne sera pas l'objet de masse qui permet la transformation des choses et tout ça. Tu vois, c'est un point de repère. C'est un truc où on vient se former. Enfin, c'est tout ça, mais c'est plus l'outil qui permet...
C'est pour ça, quand on repense à l'Abbassi Jésus-Fille, comment c'était exceptionnel, gratuit, service public, 300 000 auditeurs, et là, c'était vraiment...
Ouais, 300 000,
vers la fin, quoi.
C'était plus que ça, vers la fin.
Ah ouais, bon, je me trompe.
Mais c'était le seul truc qui, pour moi, sortait du ghetto.
Ouais, c'est ça.
La gauche critique parlait à d'autres qu'à elle-même, quoi, en gros.
Moi, un des articles qui m'a le plus ému, je pense, de Fakir, c'est Kamel, le chaînon manquant, où tu racontes comment se fait une conversion politique, comment un camionneur qui s'intéresse qu'au foot, un jour, se politise et aujourd'hui ne loupe aucune manif, lit Chomsky, lit Marx. Le déclic. Un des déclics, c'est là-bas, c'est Jésus, donc on se rend compte du rôle incroyablement important de cette émission.
Quand on parle d'éducation populaire, je pense que là, pour le coup, il y a plein de gens qui se sont formés au quotidien avec là-bas, c'est Jésus, quoi. Donc moi, je suis toujours orphelin de ça.
Ouais. Bon, je vais t'embêter avec une question qui t'emmerde, mais une des répercussions de ce film, c'est que... Ça fait un peu polémique, controverse, les annulations. Europe 1, t'as dit qu'il est obligé d'annuler son émission avec toi. Finalement, t'arrives à faire une incursion en territoire ennemi. Donc ça, c'est le genre de choses qui te plaît, c'est l'adrénaline. Mais en même temps, c'est pas évident à contrôler un dispositif comme ça face à Apathy. Ça peut être le piège, quoi, 10 minutes face à Apathy qui reste souriant, sympathique. Finalement, t'es parti au bout de 6 minutes.
Non, même, au bout de 3 minutes 30, je crois.
je me suis demandé, moi je trouve que tu t'en es bien tiré, et en même temps, je me suis demandé quel effet ça a pu produire sur un public qui n'est pas déjà de ton côté, je sais pas. Toi, t'étais content ou pas de cette prestation?
Modérément. Je pense qu'il faut, ouais. il faut que j'en fasse plus pour être bien entraîné. Tu ouais. vois. Mais bon, c'était d'essayer de dire si on y va discours contre discours, ça ouais. marchera pas, il me bernera, quoi. Donc ouais. il fallait tenter de proposer un truc situationniste un peu dans l'esprit du film,
ouais.
Avec le maroilles et puis l'os, voilà. Maintenant, en même temps, je vois bien comment il faut que je m'entraîne à faire plus de direct pour être plus détendu, pour que ça soit ouais. moi, ça soit lui qui soit crispé et pas
c'est
moi.
C'est ça qui était énervant, c'est qu'il avait... c'était lui qui restait sympathique. Mmh. C'est compliqué.
Donc, j'établis un bilan critique, mais bon,
il faut s'entraîner, quoi, de toute façon.
Voilà, il faut qu'il me réinvite, quoi.
Ouais. Non, mais il risque de le faire, on dirait.
Alors d'abord, comme je viens du Nord, hein, ça se passe dans le Nord,
oui.
je suis venu avec un petit cadeau, un cadeau du Nord, c'est-à-dire que c'est un attentat olfactif, c'est oui. un maroilles.
C'est très bon le maroilles, j'en ai déjà mangé. Alors, j'ai été rubricard à la Voix du Nord dans l'Aisne, donc je connais le maroilles.
C'est pas pour vous, c'est pour remercier votre patron, Arnaud Lagardère.
Oui, ben alors, c'est très gentil. Oui.
Non, mais pour le plan com qui m'a assuré. Oui, pour le plan com qui m'a assuré, parce qu'en m'interdisant à votre confrère Frédéric Taddeï de me recevoir, il a suscité un grand élan de sympathie, sa solidarité avec un autre ami du Fouquet's, Bernard Arnault, a suscité un élan de solidarité d'un autre côté. Et je tiens vraiment à le remercier pour la censure qu'il a exercée.
Eh bien, écoutez, ces remerciements lui iront droit au cœur. Et je pense que vous avez conscience que le temps de parole que vous prenez là pour remercier Arnaud Lagardère, à qui je ferai passer le maroilles, c'est du temps de parole que vous n'aurez pas pour parler de votre documentaire. Est-ce que vous avez été surpris de la somme qu'ont récupéré les
époux clurs ? Sur le fond, j'en parle de mon documentaire, puisque mon documentaire, c'est un combat contre l'oligarchie. Une oligarchie qui dans le film est représentée par Bernard Arnault, mais là quand on entre dans le studio, on est dans le studio Jean-Luc Lagardère, l'oligarchie elle détient des médias, elle détient tout ça, donc on parle de la même chose là en fait.
Et alors de quoi on parle ?
Ben, on parle de cette oligarchie. Je veux dire,
on parle de votre documentaire ou on n'en parle pas ?
Ben, on n'est pas forcé d'en parler.
Ah bon, d'accord.
Non, mais
on va parler de ce que vous voulez. Alors.
Ben alors d'accord, ben alors, on va parler de votre patron, on va donner des nouvelles de lui. Un des fleurons de l'aéronautique française a été remis à Jean-Luc Lagardère par le gouvernement socialiste de Lionel Jospin. C'était vachement chouette pour eux. Bon, et puis finalement, qu'en a fait le fiston ? Il n'en a rien fait, vous savez. À la place d'assister au conseil d'administration de ce grand groupe qui compte des milliers de salariés.
J'ai vu votre documentaire. Là, je l'ai trouvé bien fait. Et ma question, c'est est-ce que vous avez été surpris par l'attitude des dirigeants de LVMH qui ont accepté de remettre 40 000 euros aux époux clurs.
Non mais je vous dis, moi mon sujet c'est l'oligarchie, je trouve c'est intéressant que en ce lieu-ci...
Donc quand on va voir votre documentaire, on va voir un film sur l'oligarchie.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dénoncer
tout
exactement?
À fait, bah, écoutez, les écarts de salaire par exemple. Un salarié aussi désinvolte que Arnaud Lagardère aurait été licencié depuis longtemps par son entreprise.
Mais on va dire à ceux qui nous écoutent qu'Arnaud Lagardère n'est pas dans votre film.
Oui.
Hein. Il va être déçu, il y a tromperie sur la marchandise.
En n'assistant pas au conseil d'administration de son propre groupe, je veux dire, là, il y a une désinvolture qui mériterait une lettre de licenciement aussitôt.
Bon, donc vous ne voulez pas parler de votre documentaire. Libération dit au fond, ce que vous avez filmé ne montre pas grand-chose. C'est une fable bien faite, mais on reste un peu sceptique sur le message qui est le vôtre.
J'ai 5 minutes de temps de parole.
Je ne sais pas si vous avez 5 minutes, ça, c'est pas vous qui
décidez. J'ai 5 minutes de temps de parole.
De temps de parole, non.
D'accord. Sur toute l'année, vraisemblablement, c'est mon dernier passage à Europe 1.
Mais peut-être pas. Non,
peut-être pas.
Peut-être
que Europe 1 sera renationalisé ou qu'on peut espérer quelque chose comme ça et que je serai à nouveau invité.
On vous reçoit avec sympathie.
Est-ce que vous.
Et alors maintenant, après ce film, qu'est-ce qui se passe ? Lordon veut que ce film soit plus qu'un film, que ce soit un événement politique, qu'il devienne un catalyseur pour la convergence des luttes. Mardi soir, vous aviez organisé ensemble, bon, lui il était malade, mais la soirée Leur faire peur, à la Bourse du Travail, j'y étais, la salle était remplie, il y avait une super énergie, les gens étaient bien remontés, puis bon, à un moment on a retrouvé le côté un peu laborieux d'un meeting, où, avec les prises de parole un peu, on est tous d'accord, on n'écoute plus... ouais, quelle analyse t'as faite cette soirée ? T'avais l'air fatigué, mais...
Non, mais moi, quand on fait des appels à la grève générale, ça me fatigue très vite, quoi. Donc voilà, parce que je veux bien qu'on ait des grands mots d'ordre révolutionnaires, mais quels sont les moyens qu'on a concrètement pour mettre ça en œuvre ? Ils sont limités. Donc, j'ai quand même fait quelques actions. L'occupation de la zone industrielle d'Amiens et tout ça, c'est du boulot concret, de logistique, d'organisation des forces et tout ça, et c'est pas la déclaration de... Enfin, voilà. Donc, ça me fatigue vite, quoi. Voilà.
Bon, donc,
Non, mais donc...
Ouais, la transformation de ce film en...
Non, mais ça, c'est pas... C'est... Je... Tu sais, quand tu... Je suis passé à Rennes, et j'ai vu un mec qui était à la CGT, qui, voilà, qui organise des débats et tout ça, et il avait ce que j'ai appelé... Il s'appelle François Astolfi. Et il avait un truc que j'ai appelé après la chorégraphie Astolfi. Il fait comme ça. Tu vois, on est face à un mur. Tac, tac, tac. Ah, tiens, j'ai une prise. Ça y est. Bon, je veux dire, tout le truc contre LVMH, c'est pareil. Parce que c'est quand même... C'est le mur. Tu vois, tu te tapes le mur. À un moment, hop, t'as une prise. Bah, quand t'as une prise, tu la lâches pas. Là, on n'a pas trouvé la prise. Mais ça veut pas dire qu'il n'y aura rien. Ça veut dire que là, je considère pas que la réunion à la Bourse du Travail, ça débouche. Maintenant, je veux pas... Je pense que les débuts du film sont quand même assez prometteurs. Il faut qu'on s'organise déjà pour recueillir concrètement, tu vois, et pour recueillir les adresses mail du maximum de spectateurs qui vont dans les salles et qui sortent avec cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on en fera? On ne sait pas exactement, mais voilà. Donc, je ne suis pas du tout, je ne dis pas, je dis, ça n'a pas mal. Ok, là, ça, bon, là, je n'ai pas la prise, mais peut-être qu'à l'intérieur de la soirée de mardi, il y a déjà quelques prises, il y a quelques personnes qui sont intéressantes et tout ça. Peut-être qu'il y a le début d'un comité de pilotage, je ne sais pas trop quoi. Enfin, tu vois, je ne sais pas. Mais.
Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que ce film concentre beaucoup d'espoir, d'investissement, de toutes sortes, et presque la preuve paradoxale de ça, c'est toutes les critiques que j'ai entendues. Enfin, tu les connais, Arrêt sur image, Daniel Schneiderman, t'as fait part de... Est-ce que tu serais pas un peu méprisant, finalement? Est-ce que tu les instrumentaliserais pas? Est-ce que tu fais pas marionnettiste? C'est très, le côté très personnalisé, le côté, c'est une action individuelle qui est pas reproductible. Enfin, comme si ce film, en fait, c'était tellement rare qu'il y ait une petite victoire et quelque chose de positif, que tout le monde s'est raccroché avec... et tout le monde attend tout de ce film, comme si ce film devait déjà donner la recette de la lutte collective pour renverser le système. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que moi j'analyse tous ces reproches comme bon bah aussi un symptôme de la rareté de ce genre
possible, je vais pas analyser comme ça, phénomène. Mais pourquoi pas. Non, mais de toute façon, moi je crois que faire, c'est être critiqué aussi. Donc c'est pas grave, j'avance.
Ouais.
Je pense que il y a quelque chose qui manque beaucoup. C'est l'intuition d'un sentiment populaire, quoi.
Ouais.
Et je pense que des fois, je l'ai. C'est difficilement palpable. Et que un film beaucoup plus collectif, qui représente une lutte normale et tout ça, il rate ça. Il peut rater, je ne dis pas forcément, mais il peut rater l'émotion, il va être plus pédago, plus ceci, plus cela. OK, il donnera les meilleurs conseils. Mmh. Mais ça ne sera pas de l'émotion. Parce que l'émotion, c'est la mise en mouvement. Moi, je crois que passer par le rire, par la colère, par la peur, par tout ça, et vivre ça ensemble, et ensuite, qui est la révélation du fonctionnement du système, par là, en l'occurrence, par un émissaire de Bernard Arnault qui nous explique la politique aujourd'hui et tout ce qu'on peut faire et tout. Comment, enfin, voilà. Là, il y a un effet de dévoilement qui fait que je pense qu'il y a quand même des trucs dans le film qui... Et puis, je te dis, il y a un truc transclasse où tu peux rassembler les intellos et le populo. Je sais bien que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai la conviction qu'on a un outil. Il peut y avoir un côté snob dans la gauche critique, qui, tu vois, faut être parfait, machin.
Déjà, bon, je sais que tu en reparles dans l'article, et c'est l'idée de cette soirée, c'était essayer de faire une convergence des luttes, mais aussi... convergence des gauches, enfin, j'ai l'impression, c'est ce que tu dis sur la honte de notre camp critique qui est divisé. Moi, je m'en rends compte en pigeant pour différents journaux et en fréquentant différents courants, mais c'est fou cette division où je pense que ta position protectionniste ou la mienne, moi je suis plutôt favorable à la sortie de l'euro, on se fait traiter de nationaliste. Après, on va pouvoir t'accuser d'être un mâle blanc dominant, hétérosexuel, donc pas assez sexiste. On n'est jamais parfait, quoi. Il y a toujours ce genre d'accusation, t'as oublié les racisés.
Il y a un copain là qui travaillait beaucoup sur la révolution tunisienne. Et puis, il avait organisé un truc à Toulouse. Une réunion à Toulouse sur des nanas qui s'étaient fait licencier de chez un sous-traitant de la TECOR. Et les organisations de gauche, il fallait qu'elles chipotent sur toutes les virgules, qu'elles fassent chier le monde et tout ça. Le Front Populaire Tunisien, c'était « oui, vas-y, allez, c'est bien ». Et ce que je veux dire, c'est que dans un temps où on est à l'arrêt, et je vois même pour une petite structure comme Fakir, quand on est à l'arrêt, on se regarde le nombril, on fait gaffe à tout et tout ça, et ça crispe. Et par contre, quand on se met à avancer, tu vois, les choses, elles peuvent aller ensemble. Et là, on est dans ce temps où, on va chercher la perfection théorique, j'en sais rien, quoi. Mais, et par contre, si il y a un souffle, tu poses moins de questions, tu avances, tu essayes d'orienter un peu le cours de la rivière qui déborde, enfin, tu vois, mais après, il y a un côté snob aussi qui peut être quand il y a un truc qui marche, il faut trouver que ça va pas.
Faudrait surtout pas que ça marche trop bien, quoi. Faudrait surtout qu'on reste minoritaire. Voilà. Moi, je ressens ça. Pour finir, donc la prochaine étape, c'est quoi c'est le rendez-vous des betteraves, c'est ça?
Il y a le réveil des betteraves en Picardie. Je pense que, il va falloir que ça soit... On aura une mascotte de 2 mètres de haut avec une betterave géante. Parce qu'après, on est... Voilà, une betterave en colère. on va essayer de joindre la fantaisie et la politique. Ouais. Et puis de joindre... les gens qui ne sont pas contents à Amiens, des compagnies de théâtre, des emplois, des services publics et tout ça, avec les SAPAG, les Goodyear et tout ça, et de faire ça avec bonne humeur. Moi, peut-être que je viendrai raconter Bernard, les Barbous et moi, toute une face cachée du film. Un truc comme ça, quoi. Et je pense qu'en gros, c'est si je replace ça par rapport au film, c'est Merci Patron, la suite parce que je viendrai raconter tout ce que j'ai pas raconté dans le film, et la suite parce que ça sera peut-être un moment où on décidera de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas lié. Mais bon, après, il y aura d'autres rendez-vous quand même.
Ok, hein. Bon, beau programme. Merci à François Raffin.
De rien.
Raphaël a une question.
On n'a pas parlé de la presse, enfin justement d'Internet.
Ouais.
Quand tu parles justement, tu dis Mermel maintenant est sur Internet, tu dis ça manque, un truc populaire. Est-ce que Internet, par exemple, vous êtes aussi sur Internet?
Ouais, on vient de refaire.
Qu'est-ce que ça peut apporter Internet?
Notre site a changé cette nuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. la nouvelle mouture du site, c'est cette nuit. Non, je pense que vraiment, c'est un média qu'il faut utiliser, quoi.
C'est brillant, ça.
Non, mais je veux dire, je pense que c'est la prochaine étape du développement de Fakir. Possiblement, c'est une chaîne YouTube, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas que ce ne sera pas YouTube, mais sur le principe, c'est un truc comme ça. Mais après, moi, dans mon modèle Michael Mourien, j'ai en mémoire The Awful Truth et TV Nation, avec des séquences de 3 à 5 minutes assez toniques.
Et là, en plus, vous allez être riche avec toutes les entrées.
Ouais, c'est un problème, ça.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Autant dire riche, je sais pas, mais après, oui, peut-être qu'on va
salarier. Ça va pouvoir rajouter une véranda à la...
Ouais, au jacuzzi. Non, peut-être qu'on va salarier des gens normalement, tout simplement.
Wow.
C'est un point patron, tu vois, ça devient un peu... Attention, non, c'est quelque chose que je crains toujours, tu sais. C'est l'embourgeoisement. Sandec, ça fait rire, mais c'est vrai, tu sais. Quand tu es habitué à bouffer des pâtes, à un moment, tu mets la sauce tomate dedans. À un moment, tu rajoutes du gruyère, tu rajoutes du parmesan, tu passes à la pizza. Et quand finalement, il n'y a plus de fric et tu dois retourner aux pâtes sans tout ça, la marche arrière est compliquée. Donc, il va falloir, si jamais on élève notre niveau de vie, que ça se fasse très progressivement pour pas...
On sent le patron.
Non, mais il y a chez moi, par ailleurs, un certain ascétisme, un côté spartiate, et que j'ai pas envie que ça parte, quoi.
Il faudrait pas que la rubrique l'exploité du mois disparaisse.
Non. Mais aujourd'hui, les petites mains.
Les petites mains. Bon, okay.
Et par rapport à Merci Patron, par rapport à la clause dont parle le film, enfin qui est dans le film, tu crains pas des représailles, justement?
Non, mais t'imagines, tu vois à quel point ils sont ridicules dans le film, et ils vont faire 2-3 années de procédure en nous donnant des tas de rendez-vous possibles pour que ça soit encore plus ridicule. Franchement, je leur conseille de faire ça, quoi. Tu vois. Bon, et puis de toute façon, si jamais à ce niveau-là, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer les 41... De toute façon, c'est pas ça. Hein. Ça se produira jamais. Je pense pas qu'il y a le moindre conseiller qui leur dira de faire ça. En plus, nous, on se défendra en disant que c'est eux qui ont trahi en premier. Enfin, tu vois, tu vas arriver dans des débats d'une loufoquerie complète. Là, c'est sûr qu'ils me déroulent le tapis rouge, quoi. Je pourrais ressortir des bonus tous les 3 mois, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle audience. Enfin, bon...
Thank you.